d'histoire, actualité de la fiction d'histoire comme tous les premiers vendredis du mois. Et une nouveauté à la fin de cette émission, un bonbon à déguster tout le week-end. Ça s'appelle « C'était à la une ». Pour commencer cette table ronde fiction avec Pascal Horry, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Isabelle Landonin, professeur d'histoire médiévale à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire, nous traiterons avec un regard d'historienne et d'historien du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui nous raconte, mais vous devez déjà le savoir, tant ce film a été plébiscité par la critique, le combat d'ACT UP contre le sida au début des années 1990. Puis nous aborderons un roman et un film qui mettent tous deux en scène à deux époques différentes, des femmes entre elles cloîtrées ou presque, face à un monde hostile. Le roman, c'est celui d'Aline Kinner, La nuit des béguines, publié chez Liana Levy, qui nous emmène dans le Paris du début du XIVe siècle. Et le film, eh bien, ce sont Les proies de Sofia Coppola, qui lui nous plonge dans une propriété du Sud profond au temps de la guerre de sécession. Enfin, en conclusion de cette émission, donc une nouvelle rubrique chaque vendredi en partenariat avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France, site qui met en ligne les articles de presse de la presse française depuis deux siècles. Nous vous proposerons la lecture d'un extrait d'un grand article de la presse de ces deux derniers siècles aujourd'hui, en conclusion de notre série sur l'histoire des mouvements anarchistes, le texte de Georges Clémenceau qui, en 1894, assiste à l'exécution capitale de l'anarchiste Émile Henry. Il n'y a pas de caméra dans ce studio pour nous voir nous trémousser sur Bronski Beat, donc pour évoquer justement le premier objet de fiction, la première fiction d'histoire de cette table ronde. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour.
Bonjour à vous Isabelle Landonna.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Pascal Horry. Il s'agit du film
bonjour,
de
Emmanuel.
Robin Campillo, donc 120 battements par minute, qui raconte donc le combat de l'association ACT UP contre le sida, mais aussi contre tous ceux qui ne voulaient pas entendre parler du sida, en particulier les gouvernements de l'époque, donc pour pouvoir imposer ce sujet dans l'actualité. Comment peut-on résumer ce film déjà, peut-être un peu, Pascal Horry, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Ça nous parle au fond des origines d'ACT UP, bien que quand on entre dans le film, ACT UP existe déjà. Enfin, on est quand même dans les premiers pas. Une association qui, par rapport à quantité d'autres associations en lutte contre le sida ou pour la promotion de l'identité homosexuelle, car précisons, ACT UP lutte contre le sida, donc ne souhaite pas être confondu seulement avec une association homosexuelle, agissent déjà depuis un certain temps. AIDS, par exemple. Donc c'est un regard porté sur un type d'association, disons, particulièrement activiste, radicale. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, l'un des nombreux intérêts du film, c'est de mettre l'accent sur la mise en scène et la nécessité de mettre en scène, par exemple, à l'occasion d'une Gay Pride, une parole plus musclée et assez tragique. Bon, très clairement, moi j'abordais le film avec sans doute des préventions, on en a toujours. Je me suis dit, je vais avoir un bon film de propagande en faveur d'une association, je répète, parmi d'autres. Ça serait un autre film que de faire un film sur AIDS, par exemple. Mais en revanche, sur le plan cinématographique, ça sera sans doute moyen. C'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que j'ai découvert un vrai film, et Robin Campillo est un vrai auteur, c'est pas par hasard si c'est un monteur, un scénariste, etc.
Oui, puis son précédent film, Eastern Boys,
voilà, Eastern
un
Boys,
film absolument extraordinaire, là aussi sur
il
des
était
questions...
concerné par
le corps.
Et vous avez même des séquences, on ne s'y attend pas, il y a même une séquence onirique. Disons-le, la scène rougie de sang, ça je trouve que ça passe très très bien. Enfin, moi, c'est passé très très bien. Et on ne s'attend pas à trouver ça dans un tel film. Et le film nous plonge, c'est immédiat reste, parce qu'on est tout de suite dans une assemblée générale, une AG. Donc théoriquement, ça va être...
Qui ne s'appelle pas âgé, mais qui s'appelle RH. Donc,
oui,
réunion hebdomadaire.
Exactement.
Dans le
rien que cette précision-là. Et on se dit, ça va être didactique. Mais je me suis dit, mon Dieu, on commence par une âgé, ça va être didactique. Pas du tout. Ça passe très bien. On a l'impression d'y être. On a l'impression d'y participer. Et tout le film est un peu comme ça. Et alors, en revanche, la dimension politique, on y reviendra. Au fond, quand on sort du film, qui significativement se termine pas par une victoire, etc., avec des trompettes ou une défaite glorieuse, et puis demain ce sera mieux, mais par la mort de l'un des deux protagonistes, puisque peu à peu on focalise sur un couple quand même. Mmh. Et la mort de Sean, bon, ça clôt le film. Et je trouve que ça c'est assez fort parce que ça réintroduit, enfin plutôt ça maintient la dimension tragique. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas à faire un film de propagande, on a à faire un témoignage, alors, bien sûr bien documenté parce que outre Campillo qui devait être sans doute intéressé par le sujet, Philippe Mangeot a été quand même l'un des principaux conseillers au scénario. Et donc, il faut le dire aux auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu, c'est aussi, pour moi, un excellent film en termes cinématographiques.
Oui, et puis, effectivement, vous avez insisté sur ce point, et c'est peut-être un des points forts de ce film en termes peut-être de représentation de l'histoire. C'est la question de savoir que fait-on en fiction d'histoire de ces réunions avec de multiples intervenants. On sait combien il a été difficile, même Vajdas l'a tenté avec son Danton de raconter ce qu'était une assemblée révolutionnaire, de qui prend la parole, comment on prend la parole, et de rendre ce brouhaha, pourrait-on dire, intelligible.
Comme les pièces de théâtre aujourd'hui sur la Révolution française.
Voilà, ou comme Pommerat avec son Saïra, par exemple. Et là, effectivement, ce travail sur représenter un corps mouvant d'une décision en train de se prendre, deux décisions en train de se prendre.
Avec les contradictions.
Avec les contradictions, etc. C'est une véritable réussite dans ce film. Anaïs Quin.
Oui, parce que Romain Campillo parvient à nous transmettre la lourdeur de l'organisation et de la disciplinarisation de ces assemblées, sans pour autant qu'en tant que spectateur, on en pâtisse. Donc ouais. On profite finalement de ces doutes, de ces hésitations, de ces débats internes à ACT UP, sans pour autant qu'on nous inflige l'ennui profond de certaines réunions qui durent, de certaines discussions qui ne prennent pas, de certains conflits même internes à ces associations, à ces organisations collectives, qui ne parviennent plus finalement à débattre. C'est-à-dire que tous les points, et c'est là peut-être effectivement la grande qualité de ce film, c'est que c'est un film de cinéma qui parle d'histoire véritablement. C'est-à-dire que tous les grands thèmes d'intérêt pour ces années-là, y compris les nouveaux traitements, les nouvelles thématiques aussi, on parle du procès du sang contaminé, et il y a une interrogation sur une forme de respectabilisation du thème de la lutte contre Jida qui peut menacer ACT UP, qui peut menacer les victimes de premier plan que sont les homosexuels. Tout ça est à cet endroit-là, et moi il y a quelque chose que j'ai trouvé très fort et très juste. Alors c'est peut-être parce que c'est la première fois que je vois un film qui me parle un peu de mon histoire à moi et que j'ai vu en tant que témoin, et d'ailleurs c'est une position très très délicate, c'est la portée identitaire de ce mouvement-là, c'est-à-dire que ce sont des associations qui ont été très intégratrices, qui ont été pour l'identité homosexuelle française extrêmement importantes, extrêmement puissantes, qui ont mélangé aussi des gens provenant de classes sociales très différentes, de milieux sociaux très différents, avec une grande réussite, tout à la fois dans une grande vitalité. Ces scènes de fête sont magnifiques. Mmh. Vraiment, cette vitalité est très belle, cette vitalité de corps collectif est très belle, et à la fois aussi cette morbidité qui les rattrape en permanence et qui habite toute la deuxième partie du film.
Oui, et c'est vrai qu'une des questions importantes qui est abordée par Romain Campillo dans ce 120 battements par minute, Isabelle Le Landonna, c'est de se dire que une organisation qui, dans un grand moment de désordre, puisque le sida met le désordre dans une société en voie d'épanouissement sexuel d'une certaine façon et fait rentrer effectivement la mort de façon brutale dans une société qui d'une certaine façon se libérait des carcans et des entraves d'auparavant, nécessite néanmoins de remettre de l'ordre et un autre ordre. Et on voit bien combien dans ce 120 battements par minute, Romain Campillo nous explique comment il faut de l'ordre pour organiser ces réunions, comment il faut réinventer une organisation, réinventer des hiérarchies différentes, remettre des mots d'ordre différents, etc., pour pouvoir parler au reste de la population et se faire entendre, Isabelle Landonna.
Oui, alors, en effet, c'est un film qui est très bouleversant et très bien réussi à tous égards. Hein. Je partage ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Évidemment, il y a cette question d'ordre, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, puisqu'on parle de fiction et d'histoire, c'est que la fiction, ici, raconte une histoire oubliée. me semble-t-il. C'est-à-dire que autour de cette table, on n'est pas trois générations, mais peut-être deux et demi. Mmh. Bon, en réalité,
trois avec la mienne, moi, c'est quasiment la fin du Moyen Âge.
En tout cas, Emmanuel et moi, on appartient à la même, et on est la génération SIDA véritablement. Et ce qui m'a frappé, j'en ai parlé avec des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce film, qui, pour ceux qui l'ont vu, et c'est pour ça que j'invite les auditeurs de cet âge à aller le voir immédiatement, c'est qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ignorent. C'est-à-dire, on les a fait grandir avec l'idée que les relations sexuelles protégées, c'était absolument indispensable, en évoquant les maladies sexuellement transmissibles, le sida, etc. Mais du sida lui-même, ils savent pas grand-chose. Et ils ne connaissent pas surtout cet arrière-plan pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est un film qui, de ce point de vue-là, qui n'est pas du tout fait de manière pédagogique, mais qui a une vocation, me semble-t-il, pédagogique. Et ma fille, avec qui j'en ai parlé, me disait on devrait le projeter dans les lycées, tant ce film découvre, aux yeux de ces jeunes gens, un univers dont ils ignorent tout. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui m'a particulièrement frappé, c'est cette idée de fil contre l'oubli, finalement, que le film tresse. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, cette capacité qu'il a à démontrer la vitalité à la fois du mouvement lui-même et cette volonté de continuer à faire la fête. C'est pas un film larmoyant. C'est pas du tout un film larmoyant. Et la différence peut-être avec d'autres films sur le sida, parce que pour le mettre un peu en perspective, hein, c'est que ça raconte effectivement l'histoire d'un mouvement en tressant une histoire d'amour individuel. Donc c'est très différent de ce point de vue-là, des Nuits Fauves de Cyril Collard, ou de, je sais pas, de Philadelphia. Ça se rapproche peut-être plus d'un film qui a été reprojeté, un téléfilm qui a été projeté récemment sur une chaîne du câble, qui s'intitule The Normal Heart, un cœur normal, qui est un film réalisé d'après une pièce de Larry Kramer, donc le fondateur de d'ACTOP, qui a été diffusé cette semaine sur une chaîne câblée. Et où on voit Julia Roberts dans le rôle d'un médecin atteint de la polio qui commence à se battre. Donc on est vraiment au tout début de l'épidémie avec un personnage qui est en fait Larry Kramer lui-même et qui va fonder ACTOP et qui s'insurge contre évidemment ce qui se passe, mais aussi contre les membres de la communauté. Et c'est quelque chose qu'on voit bien dans le film de 120 battements par minute, ceux qui sont trop tièdes. À un moment, Sean dit « les PD, ils nous aiment pas ». C'est fort quand même. Hein, voilà.
Pascal Horry, Anaïs Quin, à propos de 120 battements par minute, le film de Robin Campillo qui vient de sortir en salle.
La subtilité du film, qui est à la fois intellectuelle et surtout cinématographique, se mesure bien d'une petite séquence qui m'a frappé. C'est Sean, je crois, qui à un certain moment se lance dans un discours, et j'ai retenu, c'est comme si je vivais le plus intensément parce que j'ai le sida. Donc, et puis à la fin, il éclate de rire en disant quelle connerie je suis en train de dire. Oui. Et ça, c'est très fort parce qu'on imagine bien des films, des romans qui ont dit ça ou qui ont dit ça en disant grâce au sida, je vis plus intensément. Et lui, il dit mais non, à la fois oui, bien sûr, et je fais la fête, etc. Tout est dans l'urgence, et en même temps, je suis démoli de l'intérieur. Et ça, c'est très fort. De même que les séquences où, en particulier Sean, commencent à être très atteints, enfin, certains sont très atteints, et du coup, la caméra le fait pressentir parce que, par exemple, ils n'entendent plus les sons. Ils sont comme devant un écran muet. Et ça rejoint une littérature et un témoignage. Moi, je pense à Ruven Ogien sur la maladie. Sans larmes, mais avec le sens du tragique.
Anaïs Quin.
Oui, d'ailleurs, il y a un autre passage où un des membres de cette association dit « Mais bonne ou mauvaise nouvelle, fausse ou véritable nouvelle, moi je prends tout ». Il y a quand même cette nécessité d'information aussi qui est très très forte et de cette technicité du vocabulaire et de la connaissance de son propre dossier médical et des études en cours pour le traitement du sida qui nous sont données dans ce film de la même façon que ces scènes de réunion collective de manière très très belle et toujours pertinente d'une certaine façon. Et là à un autre endroit de ce film, Campillo nous livre aussi cette grande avancée qui a été ce grand trouble pour le monde médical, qui a été l'implication extrêmement forte des malades dans leur propre destin et dans la recherche sur leur maladie.
Oui, Isabelle, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le film montre très bien comment les malades revendiquent le droit de donner des informations sur la maladie,
d'être informé,
d'être d'être informé, mais aussi il y a des discussions d'être avec les laboratoires.
D'être voilà. les acteurs bah, de leur
des patients pouvoir. Experts.
Des patients experts et qui est quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui depuis évidemment a fait quelques progrès. Donc une sorte de légitimité à parler au corps médical, à parler au laboratoire de la maladie face à un univers où on a l'impression quand même, enfin c'est pas une impression, c'est une certitude hein, que on n'est pas très engagé au départ dans la lutte contre le SIDA. En réalité, dès lors qu'on considère que c'est une communauté particulière qui est touchée, les gens ne se sentent pas concernés. Donc ça, c'est très bien montré, je crois, dans le film.
Pascal Auré. Tout à fait, parce que les sociologues et les historiens sont d'accord pour dire que ce changement, ce basculement est à la fois culturel, en ce sens qu'il y a un effet années 60, 68, etc. Mais par ailleurs, c'est sociologique. C'est-à-dire que ce sont des jeunes et pas des vieux. Et c'est plutôt des diplômés, des artistes, etc. Donc, j'allais dire qu'ils ne se laissent pas faire.
Mais là, c'est presque un peu étrange, d'ailleurs, qu'il n'y ait qu'une seule génération représentée dans le film de Campillo.
Oui, mais parce que c'est quand même centré sur les victimes. D'ailleurs, entre parenthèses, précisons aussi aux auditeurs que puisque ACT UP lutte contre le sida, ça attaque par exemple une mère, et c'est un personnage assez intéressant, et d'ailleurs il y a des contradictions internes autour d'elle, une mère de séropositif.
D'un enfant contaminé.
Contaminé par transfusion.
Par transfusion, etc.
Hémophile.
Donc ça, c'est évidemment, ça a été voulu, c'est un effet de scénario, mais je trouve que c'est bien vu.
Un effet de scénario qui est tout à fait réel, néanmoins, réel. Parce qu'effectivement, il y a aussi, il faut bien le rappeler, des hétérosexuels qui se sont engagés. Voilà. Au sein d'ACT UP pendant ces années-là, et ils et elles sont présents dans ce film de Romain Campillo. Anaïs Quien.
Oui, peut-être pour finir, il y a quelque chose à dire aussi sur à la fois sur la mise en scène du film, mais aussi sur la mise en scène de ces associations-là. D'ailleurs, pas seulement ACT UP hein, aide aussi d'une certaine façon ces mises en scène de manière très différente. Mais la question est de montrer à quel point l'identité homosexuelle a été bouleversée par cette épidémie, et aussi de montrer la nécessité de vivre ce moment-là, de vivre ces deuils-là, et de réinventer des rituels collectifs liés à cette communauté et à cette maladie-là. Donc on a des rituels, notamment des rituels... Alors on a la rénovation de la Gay Pride, des reproches faits à ce moment-là qui n'est pas aussi festif qu'on pourrait
le désirer. Triste et pluvieux.
Le désirer.
Oui, oui. Des personnages.
Un travail là-dessus. Et donc l'introduction de Pom Pom Girl, absolument magnifique dans cette Gay Pride, mais aussi des cortèges de deuil dans les rues parisiennes qui sont extrêmement poignantes et qui montrent aussi la nécessité d'exister dans cette France du début des années 90 où on le voit bien d'ailleurs à un moment lorsque certains membres de l'association passent dans un lycée, y compris les très jeunes, ne comprennent pas pourquoi on vient leur en parler.
Avec ce qui est d'actualité en 2017.
Ce qu'on appelle d'ailleurs le renouveau des répertoires d'action. C'est vrai que cette lutte contre le sida et en particulier ACT UP a permis, c'est effectivement tous les répertoires d'action qui avaient été plutôt hérités de mai 68 ont été bouleversés par l'arrivée de répertoires d'action qui pouvaient venir de Californie ou de New York.
Et qui sont discutés d'ailleurs lors de ces réunions pour être adaptés au contexte français.
Et ça, c'est tout à fait exceptionnel dans ce film parce que tout cela, cette richesse-là est présente dans ces grands moments qui rythment le film de Romain Campillo, à savoir ces grands moments de RH qui servent à la fois de structure au film et qui nous permettent de réunions hebdomadaires et qui nous permettent d'avancer dans le combat d'ACT UP. Un dernier mot, Pascal Horry ou Isabelle
Landa. Pour moi, c'est une œuvre de spectacle qui est une réflexion sur le spectacle aussi.
Oui, avec les usages, effectivement, qui ont été faits par des mouvements comme ACT UP, des manières de se mettre en scène, en particulier dans l'espace public. Un dernier mot, Isabelle Landa.
Oui, sur ce qui était évoqué par Anaïs précédemment, les idées de cortège, etc. Il y a des références qui seront sûrement pas très explicites pour tous les publics dans le film, et notamment au moment de l'agonie d'un des personnages, la référence à la promenade des cadavres. Du 23 février 1848, je parle sous le contrôle de mon voisin.
Tout à fait. Qui est lu par un étudiant en histoire. L'un des premiers qui meurt est un étudiant en histoire.
En histoire, voilà, exactement, et qui se récite ça. Et donc, il y a aussi dans le film des choses très délicates comme ça que tout le monde ne voit pas.
Il y a quelques clins d'œil à Pasolini aussi.
Et il y a quelques clins d'œil à Pasolini.
Mama Roma, par exemple.
Voilà, ça s'appelle donc 120 battements par minute. Et c'est le film de Robin Campillo qui vient de sortir en salle.
Thank you.
vous l'avez compris, avec cet ensemble vocal de Notre-Dame de Paris, nous plongeons maintenant en plein Moyen-Âge avec le roman qui vient tout juste de sortir en cette rentrée littéraire d'Aline Kiner qui s'intitule « La nuit des béguines ». Vous nous le présentez ce roman, Isabelle Landonna ?
Oui, alors il s'agit d'un roman qui se passe au début du XIVe siècle dans le Paris de Philippe le Bel, au sein du grand béguinage royal qui est donc une institution qui a été fondée par le roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Et l'histoire est la suivante, une jeune femme rousse, le fait qu'elle soit rousse est important, arrive et est recueillie dans l'hôpital du béguinage pour être soignée. Elle est muette, elle ne parle pas au départ et elle est prise sous la protection d'Isabelle qui est une vieille béguine sage et versée dans la médecine des plantes.
Il faut peut-être expliquer ce que sont les béguines dans la société médiévale.
Voilà, je vais y venir. Et donc c'est l'histoire de cette jeune femme et une intrigue se noue pour savoir qui elle est et ce qu'elle fait là. Alors, les béguines, ce sont des femmes religieuses, des mulieres religiosées, hein, comme on dit dans les textes latins, qui ont adopté à partir du début du XIIIe siècle un mode de vie très particulier, puisque il n'est pas soumis à une règle. Ce sont des femmes qui décident de vivre ou seules ou en communauté, dans des maisons individuelles, de travailler, de prier, sans être mariées. Donc elles n'ont pas ce statut-là, et sans être des religieuses et sans suivre une règle. Et donc
Sorte d'entre-deux religieux.
Voilà, on a parlé de semi-religieuses, et les textes latins parlent de femmes religieuses, mais ce ne sont pas des moniales, hein, ce ne sont pas des régulières, elles n'ont pas de règles, elles ne font pas de vœux. Et c'est un état dont on peut sortir à tout moment, de sorte qu'on trouve à la fois des veuves, des jeunes, des moins jeunes, et si elles décident de mettre fin à leur statut, elles le peuvent. Et puis, il y a une autre dimension importante, donc elles travaillent, pour certaines d'entre elles, et il y a une autre dimension importante, c'est la dimension mystique d'approfondissement spirituel. Ce sont des femmes, en général, qui ont un certain niveau de culture et qui ont un rapport à la pratique religieuse un petit peu spécifique. Et ce mouvement qui connaît un grand grand développement à partir au cours du XIIIe siècle et notamment dans les pays du Nord, hein, va être réprimé progressivement, étant entendu que dans le processus de normalisation des modes de vie que l'Église impose, hein, elles sont cet entre-deux qui est pas tolérable pour l'institution ecclésiastique. Mais les choses ne sont jamais unanimes, et d'ailleurs le roman le montre bien, hein. Il y a à la fois ceux qui les soutiennent, et parmi les religieux, les clercs, il y a des individus qui les soutiennent, et ceux qui vont les combattre au motif d'hérésie. Et c'est là où les choses commencent à se gâter. Donc le roman vise à travers une intrigue qui pas très structurée à mon sens, mais c'est peut-être pas très grave, nous montre la vie dans ce béguinage et puis la manière dont elles vont être finalement malmenées par le pouvoir ecclésiastique essentiellement.
Pascal Horry.
Je crois que l'historiographie.
La nuit des béguines de Aline Kiner chez Liana Levy.
Je crois qu'à l'heure actuelle, l'historiographie s'intéresse de plus en plus aux béguines et au béguinage, et on imagine bien pourquoi. C'est-à-dire que la lecture genrée de l'histoire est quand même à l'agenda.
Oh, ça fait déjà un petit temps.
Je me place sur une perspective de 2 ou 3 siècles d'historiographie.
Évidemment.
Il a dit qu'il était le plus âgé de cette table ronde, on sait pourquoi.
On imagine bien que le 19e siècle, mal et rationaliste, les béguines, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Donc maintenant, on imagine très bien pourquoi on les revisite. De surcroît, très sincèrement, moi j'ai découvert un personnage qui, sans être central, peu à peu structure une partie du roman qui n'est en effet peut-être pas assez structurée aussi à mes yeux, qui est Marguerite Porrette. Donc une mystique, une femme qui a écrit et dont par miracle on a pu conserver le texte. J'en donne le titre complet parce que ça dit tout d'une certaine façon du style de l'esprit de l'époque. Le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement, ces âmes saintes et anéanties, demeurent en vouloir et désir d'amour. Ça se termine par amour. Bon, alors ça, je crois qu'Aline Kiner le montre bien. Il y a cette sorte de gynécée quand même, donc un univers féminin. Et puis on a le regard de quoi ? D'une église qui regarde ça avec ambiguïté, parce qu'il y a la protection royale, donc bon, faisons avec. Mais enfin quand même, ça échappe assez largement au contrôle. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'auteur montre bien qu'il y a un relais qui sont les dominicains, les jacobins, rue Saint-Jacques, qui sont là peu à peu pour mettre en tutelle et de plus en plus
les béguinages mal-tuteurs.
Mal-tuteurs. Et d'autres, bon, c'est d'abord l'église qui... D'autre part, quand on lit Marguerite, si j'ai bien compris, Porrette, le clergé n'est pas à la fête. Il y a un rapport direct entre la mystique et
Dieu.
Et enfin, ce sont des mecs. Donc bien, non, mais soyons clairs. Donc, c'est ce que dit Aline Kinner. Je pense que c'est assez clairement ce que, en d'autres termes, peut-être plus châtiés, les historiens disent. Alors, il faut préciser, parce que c'est ce que disait Isabelle disait, une sorte de persécution progressive. C'est-à-dire qu'on va étouffer progressivement le béguinage. Marguerite, elle va avoir droit à l'inquisition, bûcher, etc. Mais c'est, faut pas la confondre avec les béguines. Le béguinage, il sera peu à peu normalisé, étouffé. Et il y a une autre question, d'ailleurs, pourquoi est-ce que le béguinage a si bien réussi en Flandre, en fait, dans ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, et beaucoup moins dans le Sud? Ça, c'était pas la question de l'auteur. L'auteur, en revanche, a l'intelligence d'isoler un certain nombre de figures féminines qui sont des déclinaisons, par exemple la veuve aristocratique Ade, qui, bon bref, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui va jouer un travail de copiste supérieur en traduisant en latin le texte de Marguerite, les médiateurs qui sont quand même des franciscains, comme par hasard, des franciscains qui sont quand même un peu tentés par sinon l'hérésie, enfin, ça c'est assez subtil, étant bien entendu que je pense que c'est la structure générale, effectivement, du livre qui est peut-être un peu molle, mais l'intelligence historique, je crois, est là.
Anaïs, qui a un propos de La Nuit des Béguines.
C'est assez triste parce qu'on a envie de les aimer à deux, Marguerite, Maheu, et puis finalement on passe toujours un petit peu à côté. Je crois que là on a un problème de construction des personnages, des personnages principaux et des personnages secondaires, qui nous laissent un peu sur notre faim, parce que par contre on arrive à un moment tout à fait dramatique, puisque les nouvelles qui arrivent tous les jours aussi au béguinage, c'est le procès de ces Templiers qui est en cours, et on va assister d'ailleurs depuis le béguinage à leur exécution tout à fait dramatique.
Le béguinage se situant, je l'ai découvert, dans le Marais actuel. On pourrait presque faire une petite promenade aujourd'hui dans le Marais pour
on
retrouver les traces du béguinage.
Mais l'expérimentation de cette liberté inouïe et inédite par ces femmes, de cette nouvelle liberté, femmes qui peuvent travailler, qui peuvent accéder à des livres, qui peuvent accéder à une éducation que peut-être elles n'auraient pas eue sans avoir réussi à entrer dans ce béguinage-là. Cette expérience-là, elle est passionnante et elle aurait pu passer dans ce livre d'Aline Kinner par peut-être une lecture de ce livre de Marguerite Porret qui pose problème à ce moment-là, en organisant peut-être quelques discussions entre ces dames autour des grands thèmes de libération de l'âme et de libération de la relation à sa foi chrétienne. Mais malheureusement, on passe totalement à côté de ça. Donc tout est un petit peu effleuré. On y prend goût parce que c'est toujours un plaisir de se balader
dans le Paris du 14e siècle,
et puis les descriptions des trajets comme ça, des béguines.
Ce sont quand même des belles figures.
Oui, enfin, effleuré, pas complètement, parce que le livre, c'est un livre qui est extrêmement bien documenté, on l'a dit, hein, avec l'excellente bibliographie des conseillers historiques.
Je parlais simplement des personnages.
Ah pardon, excuse-moi.
Sinon, le
livre est très pédagogique et d'ailleurs peut-être un peu trop.
Le décor et le fond historique sont
c'est parfait,
sont très
oui.
bien. Voilà, les personnages, nos héroïnes manquent peut-être un peu parfois d'épaisseur. Voilà,
mais ça permet néanmoins, Isabelle Landin, je rappelle que vous êtes professeure d'histoire médiévale, à tout personne qui ne connaît pas véritablement bien ce 14e siècle, ce début de 14e siècle, de comprendre quelques-uns des enjeux tout de même de ce 14e siècle dans ces tremblements autour de la religion, dans ces rapports entre papauté et royaume de France, etc., etc.
Oui, de ce point de vue-là, le livre remplit tout à fait sa mission, hein, et encore une fois, parfaitement, puisqu'il est très très bien documenté, à la fois sur le Paris du début du 14e siècle, sur les béguines elles-mêmes, sur ces mystiques dont Marguerite Porret est l'une des représentante à travers le miroir des simples âmes anéanties, sur l'inquisition.
Enfin, bref, d'ailleurs, de temps en temps, on a
sur le travail,
de sur... fiches historiques.
Alors voilà, c'est ce que j'allais exactement dire. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait du point de vue du travail qu'il y a derrière, y compris sur la pharmacopée médiévale, sur le soin, etc., qu'on a l'impression que l'auteur a un peu été prisonnier en l'occurrence de ces fiches. Je ne sais pas si j'ai le
oui,
temps.
Oui.
Je voudrais juste dire que on évoque beaucoup dans cet ouvrage, le Concile de Vienne, hein, qui est le Concile de 1311-1312, qui aboutit à une condamnation des béguines, mais la condamnation n'est promulguée en réalité que 5 ans plus tard, et elle sera très ambiguë, parce qu'on dit d'un côté, allez, il faut vous mettre en ordre de marche, puis en réalité, certaines ont une vie très orthodoxe, on peut les laisser vivre. Et donc, si vous me le permettez, je lis 3 lignes, si on a le temps, du décret du Concile de Vienne, qui parle de ces béguines, et qui dit la chose suivante. Certaines femmes, communément appelées béguines, ne peuvent être considérées comme des religieuses, religieuses, puisqu'elles ne font aucun vœu d'obéissance, ne renoncent pas à leurs biens et ne suivent aucune règle approuvée. Cependant, elles portent un habit particulier qu'on appelle l'habit des béguines et elles suivent certains religieux auxquels elles sont spécialement dévouées. Or, il nous a été rapporté, dans des mémoires dignes de foi, que quelques-unes d'entre elles, comme poussées par un égarement de l'esprit, disputent et dissertent sur la Sainte Trinité et sur l'essence divine, qu'elles répandent au sujet des articles de foi et des sacrements de l'Église des opinions contraires à la foi catholique. Elles trompent en ces matières beaucoup de gens simples et les induisent en diverses erreurs.
Bon. Oui, et donc, on voit bien que c'est ça, c'est que des femmes pensent par elles-mêmes d'une certaine façon.
Voilà, et on tire, l'Église tire la chose du côté doctrinal, ce qui pour beaucoup d'entre elles n'est pas forcément tout à fait juste. Et ce qui gêne, c'est ce mode de vie. Et donc, de ce point de vue-là, le roman remplit pleinement sa mission. Moi, je pourrais le donner à mes étudiants à lire, c'est la prochaine fois que je fais un cours sur les béguines.
Un dernier mot sur ce roman d'Aline Kinner qui vient de sortir, La nuit des béguines, chez Liana Lévy.
Pascal la Louis. Dernière phrase d'Isabelle est quand même un compliment à faire à Aline Kinner, puisqu'elle le donnerait à lire. Je crois que le piège éternel des romans historique, disons classique, c'est-à-dire 90% de ce qu'on peut lire pour l'émission ou autrement, c'est ces fameuses situations de style indirect libre où on entre quand même dans la tête des contemporains, mais qui résonnent avec des catégories intellectuelles, ce qui sont quand même assez largement celles du XXIe siècle, parce que l'auteur ayant de bonnes lectures, bon bah elle déverse la lecture des historiens du XXIe siècle dans la tête d'un moine franciscain du XIVe, ce qui est une aporie dont on ne sortira jamais.
Oui, il y a certains auteurs qui
essaient d'en sortir. Je suis pas sûr.
Enfin, en tout cas, c'est vrai que à la fin de ce roman, Aline Kinner remercie entre autres l'historien Yann Potin qui écoute cette émission et qui m'a dit, m'écrit en même temps que nous parlons, que 120 battements par minute, il faut préciser à nos auditeurs qu'ils ont travaillé, les auteurs et les scénaristes de 120 battements par minute, en se plongeant dans les archives d'ACT-UP qui ont été déposées aux archives
nationales. Comme quoi, il y a archives et archives, celles du XIVe siècle et celles d'ACT-UP.
Voilà.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Donc, qui veut dire trop jeune, évidemment, du groupe Phoenix, le groupe français. C'était la BO de Lost in Translation de Sofia Coppola. Et le groupe Phoenix signe encore la bande originale du film Les Proies, donc de Sofia Coppola, qui nous plonge dans la guerre de sécession aux États-Unis. Anaïs Kien.
La guerre de sécession est en territoire sudiste, dans un pensionnat de jeunes filles tout à fait isolé, d'ailleurs un peu déserté. Je crois qu'il ne reste plus que 5 élèves dans ce pensionnat. Et une des Benjamines ramène un blessé, un corps ennemi, un Blue Belly, qu'elle a trouvé au cours d'une de ses promenades en terrain moyennement autorisé d'ailleurs par la directrice de l'école. Et cet homme donc blessé, qui va être soigné par les femmes de ce pensionnat, femmes plus ou moins jeunes d'ailleurs, va se faire un peu le théorème pasolinien de cette petite communauté, mais ne parviendra pas à la détruire, cette communauté de femmes, qui mettra fin à cette parenthèse. Elle y mettra fin collectivement et refermera le portail de cette pension en attendant paisiblement la fin de la guerre. Alors c'est un remake d'un film qui était déjà une adaptation d'un ouvrage littéraire. Le premier film que j'ai vu pour l'occasion, que je n'ai pas revu parce que j'en avais pas connaissance avant, était signé Don Siegel en 1971 et mettait en scène Clint Eastwood, très étonnant dans cette version des Proies, tout à fait grimaçante, contrairement à la version de Sofia Coppola, version tout à fait éthérée, auquel elle a retiré toutes les références historiques qui subsistaient un petit peu dans la version de Siegel, et pour se concentrer sur ce huis clos, mais finalement...
Et les personnages noirs aussi du
sud. On y viendra,
au sens de Black.
Mais, en retirant les références historiques, d'une certaine façon, elle a déchargé un petit peu ce huis clos dans sa dimension dramatique, et elle nous perd un petit peu dans quelque chose d'un peu froid qui nous laisse un petit peu
J'ai trouvé ça quand même très très beau et très intéressant, mais c'est vrai que on est un peu trompé en mettant à l'agenda d'une table ronde fiction d'histoire un film comme celui-ci, parce
exactement.
Que c'est un huis clos.
Il n'y a pas de guerre de sécession.
Et ce huis clos fait que, bon, à part le fait que ce soldat est un soldat nordiste en territoire sudiste, eh bien, on n'a aucune référence de près ou de loin à ce qui se passe en dehors.
C'est un soldat en pleine forme, hein, il est très mignon.
Voilà. Et c'est vrai que on aurait pu placer la même intrigue d'une certaine façon dans un autre contexte de guerre, que ce soit la guerre d'Algérie ou la guerre de la Seconde Guerre mondiale, avec toujours cette idée effectivement que c'est l'arrivée et l'émergence d'un autre sexe, du sexe masculin, dans une communauté de femmes. En l'occurrence, et c'est assez proche d'ailleurs de la question qui est traitée dans le livre Béguines. Précédent, dans Les Béguines, Les Nuits des Béguines de Aline Kinner, Isabelle Lelandais.
Oui, de fait, la guerre de sécession est totalement absente. Alors, si on veut regarder les choses d'un point de vue, je dirais, historique, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce film qui, moi, m'a laissé un peu, comment dire, fraîche. C'est la vie de cette communauté féminine, non pas cloîtrée ni même enfermée, mais malgré tout...
Cloîtrée volontairement, quand même.
Cloîtrée volontairement, en tout cas sans protection à l'intérieur de la propriété.
Pour se protéger des hommes, d'ailleurs.
Pour se protéger
des soldats et des hordes des soldats.
Voilà, de la soldatesque, de la guerre qui bruit aux portes de la propriété, qui ressemble furieusement au Tara de « Autant t'en emporte le vent », qu'on a transformé pour l'occasion, donc en pensionnat. Alors, de fait, le sujet, c'est peut-être, si on veut le tirer du côté de l'histoire, les rapports entre ces femmes et ce qu'était l'éducation de ces femmes du Sud, enfin d'ailleurs de ces femmes de la fin du 19e de façon plus générale, dans des institutions qui n'en sont pas vraiment, qui sont des choses un peu d'entre-deux, comme ça, où on éduque les jeunes filles, on leur apprend à lire, à écrire, à broder.
À parler le français.
Et à parler le français. Alors, c'est très drôle, au début, il y a une scène où on apprend « je, tu, elle ». Ouais. Nous, vous, elle, et pas il.
Et quand il parle à la première personne du pluriel, nous sommes des filles.
Nous sommes des filles.
C'est un sort de message de Sofia Coppola à son auditoire et au spectateur, puisqu'effectivement, ça sera ça la question centrale de.
Voilà, donc c'est un milieu féminin.
Beaucoup de films de Sofia
Coppola.
Voilà,
c'est un milieu féminin et on y retrouve, et là aussi, on n'est pas déçus, les turpitudes que l'on prête au milieu féminin clos. C'est-à-dire ce qu'on disait des Béguines tout à l'heure, qu'on accuse pour certaines d'entre elles de tas de turpitudes à l'intérieur de communautés où les hommes n'ont pas trop vocation à rentrer. Eh bien là, on voit les turpitudes se déployer et on passe de la femme soignante et charitable à quelque chose de plus rude, c'est le moins qu'on puisse dire.
La femme castratrice, disons.
Par la castration. Et le film de Sofia Coppola, par rapport à celui de Donzigen, est beaucoup plus... Enfin, enfonce le clou. Le personnage dit « Ah, vous m'avez castré », ce que faisait pas Clint Eastwood. Et moi, ce que j'ai trouvé...
Ce qu'on comprenait pour autant.
Ce qu'on comprenait, ça se comprend très facilement. Et ce que je trouve finalement dans ce film qui est brumeux, esthétique, c'est vrai que c'est beau, c'est plastique, les images sont belles, mais enfin, tout de même, ce Colin Farrell est un peu désincarné par rapport à Clint Eastwood. Enfin, on ne peut pas dire qu'il exude la virilité. Et en même temps, du côté des femmes, je trouve que l'érotisation de la relation, c'est délicatement fait, mais à mon avis, elle ne creuse absolument pas, je trouve, la psychologie de ces personnages. Et c'est peut-être de ce côté-là, finalement, qu'il y avait à faire.
Pascal Horry, à propos des proies de Sofia Coppola.
Bah, qu'ajouter, j'adhère tout à fait à tout ce qui a été dit. Les historiens sont un peu désarmés devant un tel film, parce que, effectivement, c'est pas la question.
Oui.
C'est-à-dire, grosso modo,
autant Marie-Antoinette Sofia Coppola pouvait nous intéresser en tant que.
D'ailleurs, Marie-Antoinette, je pense, c'était une réussite sur ce point-là. Mais, parce que c'est un corps, effectivement, sudiste, mais c'est surtout un corps masculin qui vient du camp d'en face. Bon, voilà, mais ça pourrait, évidemment, être. C'est universel. D'autre part, historien du cinéma, parce qu'il faudrait avoir eu, c'est la chance qu'a eu Anaïs, avoir vu le film précédent pour comparer. On a l'impression, quand même, que le film de Siegel l'emporte. Et puis, il faudrait lire le roman.
Nous sommes deux mauvais élèves, parce qu'il y a deux bonnes élèves qui ont, effectivement, vu le film précédent de Don Siegel.
Et d'autre part, il faudrait avoir les premiers de la classe devraient avoir lu. Ça a été traduit en français très très tard.
2013.
Il y a quelques années seulement.
Thomas Cullinan.
Le livre de Thomas Cullinan. Soulignons d'ailleurs effectivement que le titre anglais ne dit pas les proies, mais quelque chose comme les séduites ou...
The Beguiled, c'est séduire ou tromper.
Tromper, voilà.
Les séduites et les trompées.
Et d'ailleurs, Cullinan a ensuite repris la même technique avec plusieurs romans qui s'appellent Les Investis, Les Minés, etc. Bon, donc il faudrait avoir la fiche complète qu'on n'a pas. Donc on voit un film esthétiquement assez agréable,
ouais,
avec même des effets d'autochrome. J'ai pensé vers la fin, des effets d'autochrome, lumière, etc. Puis il y a une sorte de sentiment de la nature, effectivement, et pas simplement au niveau des champignons, qu'ils soient vénéneux ou pas. Mais en revanche, alors étonnamment, très peu intéressé par l'affinement, Isabelle le signalait à la fin de son intervention, de la psychologie des différents personnages. Oui. Je trouve que ce sont des stéréotypes, on les a vite assez classés.
Et univoques.
Oui,
univoque.
Voilà. Et en particulier, par exemple, le rôle de la maîtresse de maison, si j'ose dire, aurait pu être poussé beaucoup, beaucoup plus loin.
En même temps, c'est ce rôle-là qui me semble
le plus développé,
tenu,
mais
oui.
Pas
peut-être
qu'on
passe à côté en disant cela, du fait qu'effectivement, chacun des personnages ne représente qu'une sorte de figure, d'une certaine façon, sur l'idée de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, Sofia Coppola a sûrement pensé en termes de groupe. Que font...
Et le ralliement, d'ailleurs, de la dissidence.
Que font ces femmes entre elles? C'est-à-dire, comment nourrissent-elles? Par exemple, cette scène, une scène formidable, effectivement, où la plus petite des gamines donne la solution pour, clore l'intrigue, pourrait-on dire, à la plus âgée. C'est justement parce
que
chacun...
Est-ce que c'est dans Coppola, ou est-ce que c'est dans le roman, ou dans le film de Siegel?
Voilà. C'était également dans le film de Siegel. Ce qui était présent dans le film de Siegel et qui me paraissait, moi, très intéressant et qui n'apparaît pas, finalement, dans le film de Coppola, c'est dans le personnage interprété donc par Clint Eastwood dans le film de Don Siegel, c'est le trouble de cet homme qu'on sent éreinté par la guerre, blessé de toutes parts, blessé dans son ego, blessé dans sa virilité, et qui se retrouve finalement à l'endroit où il va perdre pied face à toutes ces femmes qui viennent le chercher, qui viennent le attiser son désir, à réactiver toutes ses frustrations et qui va en devenir fou.
Alors que là,
certaine façon, alors que ici, on n'a absolument pas cet aspect trauma de guerre ou autre, peu importe.
Le personnage masculin est complètement édulcoré. Oui.
Voilà, il est une poupée de chiffon, d'une certaine façon.
Le comédien y est pour quelque chose, peut-être aussi.
Isabelle Landonna.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Anaïs. Clint Eastwood, dans la version de Siegel, est quand même un personnage très très conséquent. Et là encore, pour revenir à notre propos, qu'est-ce que la fiction apporte à l'histoire, on sent effectivement la guerre à travers le personnage, bien que la guerre ne soit pas très présente, même si elle l'est un peu plus que dans la version Coppola. Et moi, c'est le reproche principal que je ferais au film du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire je suis pas critique cinématographique, c'est qu'en réalité, y compris sur les relations entre ces femmes dans une communauté plus ou moins fermée, le jeu sur les clés, les clés des chambres, les portes qu'on ferme, la porte de la propriété qu'on ferme, tout ceci ne nous dit pas grand-chose de neuf. En gros, ça n'apporte pas grand-chose par rapport, me semble-t-il, à la version précédente, ni sur le mode de vie, ni sur l'éducation des filles. Enfin, tout ça est très convenu, en réalité. Voilà.
Donc, voyez le film de 71.
Ouais, il va falloir qu'on se précipite, Pascal.
Non, mais bon, c'est joli.
On va trouver une séance pour aller voir le film de 71.
Mais Siegel, Siegel est un excellent réalisateur méconnu.
Voilà. Alors donc, on a parlé dans cette table ronde fiction de ce film de Sofia Coppola, Les Proies, du roman d'Aline Kinner, La Nuit des Béguines, mais aussi en ouverture de cette discussion de 120 battements par minute de Robin Campillo. Vous voulez nous parler d'un coup de cœur, en l'occurrence, Pascal Horry, une bande dessinée, parce qu'il n'y avait pas de bande dessinée dans cette table ronde fiction, et évidemment,
oui, quand même.
Ça vous titille à chaque fois.
Ça me titille. Panama All Round de Jacques Goldstein. Scénario, et Alex W. Inker, mais ce sont plutôt des Français que des Américains, à la fois au scénario et au dessin, un dessin assez expressionniste, qui a du charme, peut-être que la limite est quand même du côté du dessin, mais on peut entrer dans cet expressionnisme, un peu gravure sur bois, etc. C'est l'histoire de ce personnage, entre guillemets, réel, inspiré par des faits réels, Panama All Brown. Il y a eu déjà deux ou trois bandes dessinées sur Yang Perez, vous savez, ce champion de boxe qui a été l'amant d'une grande actrice de cinéma, Mireille Balin, et qui a eu un destin tragique, comme Mireille Balin d'ailleurs. Donc Panama All Brown, c'est à peu près ça, c'est une déchirure déchéance progressive. D'ailleurs, ça insiste peut-être plus sur le côté de la déchéance que sur ce qu'il avait d'assez extraordinaire. C'était quand même plus que Yang Perez, à mon avis, un très grand joueur des années 20, des années 30, qu'on voit croisant le destin de Josephine Baker, sans doute amant de Jean Cocteau, donc, et qui est un Panaméen, c'est même pas un Américain, c'est un Panaméen, champion du monde, et qui meurt dans une déchéance noire, si j'ose dire, au début des années 50 à New York. Ça mérite plus que le détour, je pense.
Panama, Holbrand et ses éditions.
Donc, Sarbacane.
Merci Pascal Horry. Alors nous allons clore chaque vendredi désormais l'émission avec une nouvelle séquence qui s'intitule « C'était à la une », une séquence que nous concevons avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Retro News. Et vous pouvez d'ailleurs tout de suite après cette séquence aller voir sur ce site. Nous choisissons chaque vendredi un texte, un grand texte de presse en l'occurrence, qui nous parle encore d'une certaine façon parmi les millions d'articles publiés dans la presse depuis deux siècles. Et puisque nous avons parlé depuis le début de la semaine dans la Fabrique de l'Histoire de l'histoire de l'anarchie, eh bien ce texte est celui de Georges Clemenceau, paru dans son journal La Justice le 23 mai 1894, la guillotine, il assiste à l'exécution publique d'Émile Henry.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
La justice, 23 mai 1894. La guillotine, par Georges Clemenceau. Quelqu'un me dit... Il faut que vous voyez ça pour en pouvoir parler à ceux qui trouvent que c'est bien. J'hésitais, cherchant des prétextes. Et puis, brusquement, je me décide. Partons. Toutes les rues aboutissant à la place de la Roquette sont barrées. La place est occupée militairement. Il y a là 1000 hommes. C'est beaucoup pour en tuer un seul. Devant la porte de la Roquette, nouvelle barrière pour les personnes munies de cartes. Il y a bien là une soixantaine de journalistes. Les sergents de ville passent la cigarette ou la pipe à la bouche. Tout le monde fume. On cause à mi-voix. L'attitude est plutôt recueillie. J'ai mal vu M. Day Blair, un petit vieux qui traîne la jambe. Étais-je prévenu? Il m'a paru gauche, oblique et sournois. Un de ses aides, un jeune blond, gras, frais et rose, faisait contraste avec lui. On monte le couteau, qu'on fait glisser dans sa rainure. On installe la bascule qu'on fait jouer. M. Deibler en personne place le baquet pour la tête et l'enveloppe d'une sorte de petit paravent de bois qui arrêtera l'éclaboussure du sang. Le panier pour le corps gît tout ouvert à côté de la bascule, près du fourgon à destination du cimetière d'Ivry. Tout est prêt. La machine attend. Émile Henry paraît, conduit, poussé par l'équipe du bourreau. Quelque chose comme une vision du Christ de Munkaczy, avec son air fou, sa face affreusement pâle, semée de poils rouges et rares et tourmentés. Malgré tout, l'expression est encore implacable. Le visage blême m'aveugle. Je suis hors d'état de voir autre chose. Il jette un regard circulaire et, dans un rictus horrible, d'une voix rauque mais forte, lance convulsivement ces mots « Courage, camarades, vive l'anarchie !» Le corps sans résistance est poussé sur la bascule qui glisse. Tout ceci violent, précipité comme dans une apparition. Ici un temps d'arrêt, bref sans doute, mais pour moi, démesuré. Quelque chose n'était pas au gré de M. Day Blair. Il se penche, allonge le bras, semble hésiter. Cela semble inexplicablement long, car Henry, maintenu sur la planche, le cou sous la lunette, attend. Enfin... Le bourreau se relève et se décide. Un bruit sourd comme d'une masse qui écrase et broie. C'est fait. L'horreur de l'ignoble drame m'envahit alors et m'étreint. Je sens en moi l'inexprimable dégoût de cette tuerie administrative, faite sans conviction par des fonctionnaires corrects. Le crime d'Henri me paraît odieux. Je ne lui cherche pas d'excuses. l'acte de la société m'apparaît comme une basse vengeance. Que des barbares aient des mœurs barbares, c'est affreux, mais cela s'explique. Mais que des civilisés irréprochables et qui ont reçu la plus haute culture ne se contentent pas de mettre le criminel hors d'état de nuire et qu'ils s'acharnent vertueusement à couper un homme en deux, voilà ce qu'on ne peut expliquer que par une régression atavique vers la barbarie primitive. Voilà ce que je rapporte de la place de la Roquette. J'ai raconté ce que j'ai vu, sans rien dramatiser. Le simple récit des faits me paraissant supérieur en émotion vraie à tout artifice d'art. Que les partisans de la peine de mort aillent, s'ils l'osent, renifler le son de la Roquette. Nous causerons après.
Voilà le texte de Georges Clémenceau paru dans La Justice le 23 mai 1894. S'appelait La Guillotine. Il était lu par Daniel Königsberg dans une réalisation de Séverine Cassard. Vous pouvez retrouver une page spéciale dans la fabrique de ce jour sur le site internet de France Culture. N'hésitez pas à y aller et allez voir aussi l'intégralité de ce journal La Justice de 1894 sur le site de Retro News, le site de la BNF. Ce soir, je rappelle que la dispute cinéma d'Arnaud Laporte à 19h reviendra sur les deux films dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir 120 battements par minute et également Les Proies, et sûrement en en disant autre chose que ce que nous avons dit. Donc la comparaison sera intéressante. Et puis l'histoire continue le samedi sur France Culture avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, grand connaisseur de Clémenceau, qui recevra demain Dominique Khalifa et lui demandera si cette époque, la belle époque, était si optimiste que cela. Et puis la semaine prochaine, nous parlerons, nous, des héros dans la fabrique de l'histoire, des héros et des héroïnes. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Emmanuel Morsdinkan nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. À lundi.